Chapitre 11. Le comte de Phénix, son éminence, le cardinal de Rohan. Pendant longtemps, un silence profond laissa les deux femmes, l'une à ses méditations douloureuses, l'autre à son étonnement, facile à comprendre. Enfin, Madame Louise rompit la première le silence. « Vous n'avez rien fait pour faciliter cet enlèvement, dit-elle. « Rien, madame. Et vous ignorez comment vous êtes sorti du couvent ? Je l'ignore. Cependant, un couvent est bien gardé, bien fermé. Il y a des barreaux aux fenêtres, des murs presque infranchissables, une tourière qui ne quitte pas ses clés. Cela est ainsi, en Italie surtout, où les règles sont plus sévères encore qu'en France. Que vous dirais-je, madame, quand moi-même, depuis ce moment, je m'abîme à creuser mes souvenirs sans y rien trouver ? « Mais vous lui reprochâtes votre enlèvement. »« Sans doute. »« Que vous répondit-il pour s'excuser ?»« Qu'il m'aimait. »« Que lui dites-vous ? » ?»« Qu'il me faisait peur. »« Vous ne l'aimiez donc pas ?»« Oh non, non !» !»« En étiez-vous bien sûr ?»« Hélas, madame, c'était un sentiment étrange que j'éprouvais pour cet homme. »« Lui-là, je ne suis plus moi, je suis lui. » Ce qu'il veut, je le veux, ce qu'il ordonne, je le fais. Mon âme n'a plus de puissance, mon esprit plus de volonté. Un regard me dompte et me fascine. Tantôt il semble pousser jusqu'au fond de mon cœur des pensées qui ne sont pas miennes. Tantôt il semble attirer au dehors de moi des idées si bien cachées, jusqu'alors à moi-même, que je ne les avais pas devinées. Oh, vous voyez bien, madame, qu'il y a magie. C'est étrange, au moins, si ce n'est pas surnaturel, dit la princesse. Mais après cet événement, comment viviez-vous avec cet homme ? Il me témoignait une vive tendresse, un sincère attachement. C'était un homme corrompu, peut-être. Je ne le crois pas. Au contraire, il a quelque chose de l'apôtre dans sa manière de parler. Allons, vous l'aimez, avouez-le. « Non, non, madame, dit la jeune femme avec une douloureuse volonté, non, je ne l'aime pas. Alors vous auriez dû fuir, vous auriez dû en appeler aux autorités, vous réclamer de vos parents. Madame, il me surveillait tellement que je ne pouvais fuir. Que n'écriviez-vous ? Nous nous arrêtions partout sur la route dans des maisons qui semblaient lui appartenir, où chacun lui obéissait. » Plusieurs fois, je demandais du papier, de l'encre et des plumes, mais ceux à qui je m'adressais étaient renseignés par lui. Jamais aucun ne me répondit. Mais en route, comment voyagez-vous ? D'abord en chaise de poste, mais à Milan, nous trouvâmes non plus une chaise de poste, mais une espèce de maison roulante dans laquelle nous continuâmes notre chemin. Mais enfin, il était obligé, parfois, de vous laisser seul. Oui, alors il s'approchait de moi, il me disait « Dormez », puis je m'endormais, je ne me réveillais qu'à son retour. Madame Louise secoua la tête avec un air d'incrédulité. « Vous ne désiriez pas fuir bien énergiquement, dit-elle, sans quoi vous y fussiez parvenue. Hélas, il me semble cependant que si, madame, mais aussi peut-être étais-je fasciné par ses paroles d'amour, par ses caresses. » Il me parlait rarement d'amour, madame, et à part un baiser sur le front le soir et un autre baiser sur le front le matin, je ne me rappelle point qu'il m'ait fait d'autres caresses. Étrange, étrange en vérité, murmura la princesse. Cependant, sous l'empire d'un soupçon, elle reprit. Voyons, répétez-moi que vous ne l'aimez pas. Je vous le répète, madame. Redites-moi que nul lien terrestre ne vous attache à lui. Je vous le redis. Que s'il vous réclame, il n'aura aucun droit à faire valoir. Aucun. Mais enfin, continua la princesse, comment êtes-vous venue ici ? Voyons, car je m'y perds. Madame, j'ai profité d'un violent orage qui nous surprit un peu au-delà d'une ville qu'on appelle, je crois, Nancy. Il avait quitté sa place près de moi, il était entré dans le second compartiment de sa voiture pour causer avec un vieillard qui habitait ce second appartement. Je sautai sur son cheval et je m'enfuis. Et qui vous fit donner la préférence à la France au lieu de retourner en Italie ? je réfléchis que je ne pouvais retourner à Rome, puisque, bien certainement, on devait croire que j'avais agi de complicité avec cet homme. J'y étais déshonoré, mes parents ne m'eussent point reçu. Je résolus donc de fuir à Paris et d'y vivre caché, ou bien de gagner quelque autre capitale où je pusse me perdre à tous les regards et aux siens surtout. Quand j'arrivai à Paris, toute la ville était émue de votre retraite aux Carmélites, madame. Chacun vantait votre piété, votre sollicitude pour les malheureux, votre compassion pour les affligés. Ce me fut un trait de lumière, madame. Je fus frappé de cette conviction que vous seule étiez assez généreuse pour m'accueillir, assez puissante pour me défendre. Vous en appelez donc toujours à ma puissance, mon enfant. Il est donc bien puissant, lui. Oh oui. Mais qui est-il, voyons, par délicatesse, j'ai jusqu'à présent tardé à vous le demander. Cependant, si je dois vous défendre, faut-il encore que je sache contre qui? Ah, madame, voilà encore en quoi il m'est impossible de vous éclairer. J'ignore complètement qui il est et ce qu'il est. Tout ce que je sais, c'est qu'un roi n'inspire pas plus de respect, un dieu plus d'adoration que n'en ont pour lui les gens auxquels il daigne se révéler. Mais son nom, comment s'appelle-t-il? Madame, je l'ai entendu appeler de bien des noms différents. Cependant, deux seulement me sont restés dans la mémoire. L'un est celui que lui donne ce vieillard dont je vous ai parlé, et qui fut notre compagnon de voyage depuis 1000 ans jusqu'à l'heure où je l'ai quitté. L'autre est celui qu'il se donnait lui-même. Quel était le nom dont l'appelait le vieillard? Acarate, n'est-ce pas un nom antichrétien, dites, madame? Et celui qu'il se donnait à lui-même, Joseph Balsamo. Et lui? Lui connaît tout le monde, devine tout le monde. Il est contemporain de tous les temps, il vécut dans tous les âges, il parle, oh mon Dieu, pardonnez-moi de tels blasphèmes, non seulement d'Alexandre, de César, de Charlemagne, comme s'il les avait connus. Et cependant, je crois que tous ces hommes-là sont morts depuis bien longtemps, mais encore de Caïphe, de Pilate, de notre Seigneur Jésus-Christ, enfin comme s'il eût assisté à son martyre. « C'est quelque charlatan, alors, dit la princesse. Madame, je ne sais point peut-être parfaitement ce que veut dire en France le nom que vous venez de prononcer, mais ce que je sais, c'est que c'est un homme dangereux, terrible, devant lequel tout plie, tout tombe, tout s'écroule, que l'on croit sans défense et qui est armé, que l'on croit seul et qui fait sortir des hommes de terre, et cela sans force, sans violence, avec un mot, un geste, en souriant. « C'est bien, dit la princesse, quel que soit cet homme, rassurez-vous, mon enfant, vous serez protégé contre lui. » « Par vous, n'est-ce pas, madame ?»« Oui, par moi, et cela tant que vous ne renoncerez pas vous-même à cette protection. » Mais ne croyez plus, mais surtout ne cherchez plus à me faire croire aux visions surnaturelles que votre esprit malade a enfantées. Les murs de Saint-Denis, en tout cas, vous seront un rempart assuré contre le pouvoir infernal, et même, croyez-moi, contre un pouvoir bien plus à craindre, contre le pouvoir humain. Maintenant, madame, que comptez-vous faire? Avec ces bijoux qui m'appartiennent, madame, je compte payer ma dot dans un couvent, dans celui-ci, si c'est possible. » Et Lorenza déposa sur une table de précieux bracelets, des bagues de prix, un diamant magnifique et de superbes boucles d'oreilles. Le tout pouvait valoir 20 000 écus. « Ces bijoux sont à vous ?» demanda la princesse. « Ils sont à moi, madame, il me les a donnés et je les rends à Dieu. Je ne désire qu'une chose. Laquelle, dites ? C'est que son cheval arabe, Djérit, qui fut l'instrument de ma délivrance, lui soit rendu, s'il le réclame. Mais vous, à aucun prix, n'est-ce pas, vous ne voulez retourner avec lui? Ah non, je ne lui appartiens pas. C'est vrai, vous l'avez dit. Ainsi, madame, vous continuez à vouloir entrer à Saint-Denis et à continuer les pratiques de religion interrompues à Subiaco par l'étrange événement que vous m'avez raconté. C'est mon vœu le plus cher, madame, et je sollicite cette faveur à vos genoux. Eh bien, soyez tranquille, mon enfant, dit la princesse, dès aujourd'hui, vous vivrez parmi nous, et lorsque vous nous aurez montré combien vous tenez à obtenir cette faveur, lorsque, par votre exemplaire conduite à laquelle je m'attends, vous l'aurez mérité, ce jour-là, vous appartiendrez au Seigneur, et je vous réponds que nul ne vous enlèvera de Saint-Denis lorsque la supérieure veillera sur vous. » Lorenza se précipita aux pieds de sa protectrice, lui prodiguant les plus tendres, les plus sincères remerciements. Mais tout à coup, elle se releva sur un genou, écouta, pâlit, trembla. « Oh mon Dieu !» dit-elle. « Mon Dieu ! Mon Dieu !»« Quoi ?» demanda Madame Louise. « Tout mon corps tremble, ne le voyez-vous pas ? Il vient, il vient !»« Qui cela ? Lui, lui qui a juré de me perdre !» « Cet homme ? Oui, cet homme, ne voyez-vous pas comme mes mains tremblent ?»« En effet, oh » s'écria-t-elle, « le coup au cœur, il approche !»« Vous vous trompez, mais non, madame, tenez, malgré moi, il m'attire, voyez, retenez-moi, retenez-moi » Madame Louise saisit la jeune femme par le bras. « Mais remettez-vous, pauvre enfant, » dit-elle. « Fût-ce lui, mon Dieu, vous êtes ici en sûreté. »« il approche, vous dis-je » s'écria Lorenza, terrifiée, anéantie, les yeux fixes, le bras étendu vers la porte de la chambre. « Folie, folie, » dit la princesse, « est-ce que l'on entre ainsi chez Madame Louise de France ? Il faudrait que cet homme fût porteur d'un ordre du roi. » « Oh, madame, je ne sais comment il est entré !» s'écria Lorenza en se renversant en arrière. « Mais ce que je sais, ce dont je suis certaine, c'est qu'il monte l'escalier, c'est qu'il est à 10 pas à peine, c'est que le voilà !» Tout à coup, la porte s'ouvrit, la princesse recula, épouvantée malgré elle, de cette coïncidence bizarre. Une sœur parut. « Qui est là ?» demanda madame, « et que voulez-vous » « Madame, répondit la sœur, un gentilhomme vient de se présenter au couvent qui veut parler à votre Altesse royale. Son nom, Monsieur le Comte de Phénix. »« Est-ce lui ?» demanda la princesse à Lorenza, « et connaissez-vous ce nom ?»« Je ne connais pas ce nom. »« C'est lui, madame, c'est lui. » « Que veut-il ?» demanda la princesse à la religieuse. « Chargé d'une mission auprès du roi de France par sa majesté le roi de Prusse, il voudrait, dit-il, avoir l'honneur d'entretenir un instant votre Altesse royale. » Madame Louise réfléchit un instant, puis se retournant vers Lorenza, « Entrez dans ce cabinet, » dit-elle. Lorenza obéit. « Et vous, ma sœur, » continua la princesse, « faites entrer ce gentilhomme. » La sœur s'inclina et sortit. La princesse s'assura que la porte du cabinet était bien close et revint à son fauteuil où elle s'assit, attendant, non sans une certaine émotion, l'événement qui allait s'accomplir. Presque aussitôt, la sœur reparut. Derrière elle marchait cet homme que nous avons vu le jour de la présentation se faire annoncer chez le roi sous le nom de comte de Phénix. Il était revêtu du même costume, qui était un uniforme prussien, sévère dans sa coupe. Il portait la perruque militaire et le col noir. Ses grands yeux, si expressifs, s'abaissèrent en présence de Madame Louise, mais seulement pour donner au respect tout ce qu'un homme, si haut placé qu'il soit, comme simple gentilhomme, doit de respect à une fille de France. Mais les relevant aussitôt, comme s'il eût craint d'être ainsi d'une trop grande humilité, « Madame, dit-il, je rends grâce à votre Altesse royale de la faveur qu'elle veut bien me faire. J'y comptais cependant, connaissant que votre Majesté soutient généreusement tout ce qui est malheureux. »« En effet, monsieur, j'y essaie, » dit la princesse avec dignité, car elle comptait terrasser après 10 minutes d'entretien celui qui venait impudemment réclamer la protection d'autrui après avoir abusé de ses propres forces. » Le comte s'inclina, sans paraître avoir compris le double sens des paroles de la princesse. « Que puis-je donc pour vous, monsieur ?» continua Madame Louise, sur le même ton d'ironie. « Tout, madame. Parlez. Votre Altesse, que je ne fusse point sans de graves motifs venus importuner dans la retraite qu'elle s'est choisie, a donné, je le crois du moins, asile à une personne qui m'intéresse en tout point. » « Comment nommez-vous cette personne, monsieur ?»« Lorenza Feliciani. »« Et que vous est cette personne ? Est-ce votre alliée, votre parente, votre sœur ?»« C'est ma femme. »« Votre femme ?» dit la princesse en élevant la voix afin d'être entendue du cabinet. « Lorenza Feliciani est la comtesse de Phénix ?»« Lorenza Feliciani est la comtesse de Phoenix, oui, madame, répondit le comte avec le plus grand calme. Je n'ai point de comtesse de Phoenix au Carmélite, monsieur, répliqua sèchement la princesse. Mais le comte ne se regarda point comme battu et continua. Peut-être bien, madame, votre Altesse n'est-elle pas bien persuadée encore que Lorenza Feliciani et la comtesse de Phoenix sont une seule et même personne? Non, je l'avoue, dit la princesse, et vous avez deviné juste, monsieur. Ma conviction n'est point entière sur ce point. Votre Altesse veut-elle donner l'ordre que Lorenza Feliciani soit amenée devant elle, et alors elle ne conservera plus aucun doute. Je demande à son Altesse pardon d'insister ainsi, mais je suis tendrement attaché à cette jeune femme, et elle-même regrette, je crois, d'être séparée de moi. Le croyez-vous ? Oui, madame, je le crois, si pauvre que soit mon mérite. Oh, pensa la princesse, Lorenza avait dit vrai, et cet homme est effectivement un homme dangereux. Le comte gardait une contenance calme et se renfermait dans la plus stricte politesse de cour. Essayons de mentir, continua de penser madame Louise. Monsieur, dit-elle, je n'ai point à vous remettre une femme qui n'est point ici. Je comprends que vous la cherchez avec tant d'insistance, si vous l'aimez véritablement, comme vous le dites, mais si vous voulez avoir quelque chance de la trouver, cherchez-la ailleurs, croyez-moi. Le comte, en entrant, avait jeté un regard rapide sur tous les objets que renfermait la chambre de madame Louise, et ses yeux s'étaient arrêtés un instant, rien qu'un instant, mais ce seul regard avait suffi, sur la table placée dans un angle obscur de l'appartement, et c'était sur cette table que Lorenza avait placé ses bijoux qu'elle avait offerts pour entrer au Carmélite. Aux étincelles qu'il jetait dans l'ombre, le comte de Phoenix les avait reconnues. « Si votre Altesse royale voulait bien rappeler ses souvenirs, insista le comte, et c'est une violence que je la prie de vouloir bien se faire, elle se rappellerait que Lorenza Feliciani était tout à l'heure dans cette chambre, et qu'elle a déposé sur cette table les bijoux qui y sont, et qu'après avoir eu l'honneur de conférer avec votre Altesse, elle s'est retirée. » Le comte de Phoenix saisit au passage le regard que la princesse jetait du côté du cabinet. « Elle s'est retirée dans ce cabinet, » acheva-t-il. La princesse rougit. Le comte continua. « De sorte que je n'attends que l'agrément de son Altesse pour lui ordonner d'entrer, ce qu'elle fera à l'instant même, je n'en doute pas. » La princesse se rappela que Lorenza s'était enfermée en dedans et que, par conséquent, rien ne pouvait la forcer de sortir que l'impulsion de sa propre volonté. Mais, dit-elle, ne cherchant plus à dissimuler le dépit qu'elle éprouvait d'avoir menti inutilement devant cet homme à qui l'on ne pouvait rien cacher, si elle entre, que fera-t-elle ? Rien, madame, elle dira seulement à votre Altesse qu'elle désire me suivre, étant ma femme. Ce dernier mot rassura la princesse, car elle se rappelait les protestations de Lorenza. « Votre femme, dit-elle, en êtes-vous bien sûre ? » Et l'indignation perçait sous ses paroles. « On croirait en vérité que votre Altesse ne me croit pas, dit poliment le comte. Ce n'est pas cependant une chose bien incroyable que le comte de Phoenix ait épousé Lorenza Feliciani et que, l'ayant épousée, il redemande sa femme. « Sa femme encore !» s'écria madame Louise avec impatience. « Vous osez me dire que Lorenza Feliciani est votre femme ?»« Oui, madame, répondit le comte avec un naturel parfait. J'ose le dire, car cela est. » « Marié, vous êtes marié. »«
Je suis marié. » »«
Avec Lorenza. » »«
Avec Lorenza. » »«
Légitimement ?»«
Sans doute, si vous insistez, madame, dans une dénégation qui me blesse. » »«
Eh bien, que ferez-vous ? » ?»«
Je mettrai sous vos yeux mon acte de mariage, parfaitement en règle, et signé du prêtre qui nous a unis. » La princesse tressaillit. Tant de calme brisait ses convictions.
Le comte ouvrit un portefeuille et développa un papier plié en quatre. « Voilà la preuve de la vérité que j'avance, madame, et du droit que j'ai de réclamer cette femme. La signature fait foi. Votre Altesse veut-elle lire l'acte et interroger la signature ? »
Une signature, murmura la princesse avec un doute plus humiliant que ne l'avait été sa colère. Mais si cette signature est celle du curé de Saint-Jean de Strasbourg, bien connu de monsieur le prince Louis, cardinal de Rohan, et si son éminence était ici. Justement, monsieur le cardinal est ici, s'écria la princesse, attachant sur le comte des regards enflammés. Son éminence n'a pas quitté Saint-Denis, elle est dans ce moment-ci chez les chanoines de la cathédrale. Ainsi, rien n'est plus aisé que cette vérification que vous proposez. « C'est un grand bonheur pour moi, madame, » répondit le comte en remettant flegmatiquement son acte dans son portefeuille, « car après cette vérification, je l'espère, je verrai se dissiper tous les soupçons injustes que votre Altesse a contre moi. » « Tant d'impudence me révolte en vérité, » dit la princesse en agitant vivement sa sonnette. « Ma sœur !» La religieuse, qui avait un instant auparavant introduit le comte de Phénix, accourut. « Que l'on fasse monter à cheval mon piqueur, » dit la princesse, « et que l'on envoie porter ce billet à monsieur le cardinal de Rohan. On le trouvera au chapitre de la cathédrale, qu'il vienne ici sans retard, je l'attends. » Et tout en parlant, la princesse écrivit à la hâte deux mots qu'elle remit à la religieuse. Puis elle ajouta tout bas « Que l'on place dans le corridor deux archers de la maréchaussée et que personne ne sorte sans mon congé. Allez !» Le comte avait suivi les différentes phases de cette résolution, bien arrêtée maintenant chez madame Louise, de lutter avec lui jusqu'au bout. Et tandis que la princesse écrivait, décidée sans doute à lui disputer la victoire, il s'était approché du cabinet, et là, l'œil fixé sur la porte, les mains étendues et agitées d'un mouvement plus méthodique que nerveux, il avait prononcé quelques mots tout bas. La princesse, en se retournant, le vit dans cette attitude. « Que faites-vous là, monsieur ? » dit-elle. « Madame, me dit le comte, j'adjure Lorenza Feliciani de venir ici en personne, vous confirmer, par ses paroles et de sa pleine volonté, que je ne suis ni un imposteur ni un faussaire, et cela sans préjudice de toutes les autres preuves qu'exigera votre Altesse. « Monsieur !»« Lorenza Feliciani !» cria le comte, dominant tout, même la volonté de la princesse. « Lorenza Feliciani !» « Sortez de ce cabinet et venez ici, venez !» Mais la porte resta close. « Venez, je le veux !» répéta le comte. Alors la clé grinça dans la serrure, et la princesse, avec un indicible effroi, vit entrer la jeune femme, dont les yeux étaient fixés sur le comte, sans aucune expression de colère ni de haine. « Mais que faites-vous donc, mon enfant, que faites-vous ? » s'écria madame Louise. « Et pourquoi revenir à cet homme que vous aviez fui ? Vous étiez en sûreté ici, je vous l'avais dit. »« Elle est en sûreté aussi dans ma maison, madame, » répondit le comte. Puis, se retournant vers la jeune femme, « N'est-ce pas, Lorenza, dit-il, que vous êtes en sûreté chez moi ?»« Oui, » répondit la jeune fille. La princesse, au comble de l'étonnement, joignit les mains et se laissa tomber dans son fauteuil. « Maintenant, Lorenza, » dit le comte d'une voix douce, mais dans laquelle néanmoins l'accent du commandement se faisait sentir, « maintenant on m'accuse de vous avoir fait violence. Dites, vous ai-je violenté en quelque chose que ce soit ?»« Jamais, » répondit la jeune femme d'une voix claire et précise, mais sans accompagner cette dénégation d'aucun mouvement. « Alors, s'écria la princesse, que signifie toute cette histoire d'enlèvement que vous m'avez faite ?» Lorenza demeura muette. Elle regardait le comte comme si la vie et la parole qui en est l'expression devaient lui venir de lui. « Son Altesse désire sans doute savoir comment vous êtes sortie du couvent, Lorenza. Racontez tout ce qui s'est passé depuis le moment où vous vous êtes évanouie dans le cœur jusqu'à celui où vous vous êtes réveillé dans la chaise de poste. » Lorenza demeura silencieuse. « Racontez la chose dans tous les détails, » continua le comte, « sans rien omettre. Je le veux. » Lorenza ne put réprimer un frémissement. « Je ne me rappelle point, » dit-elle. « Cherchez dans vos souvenirs, et vous vous rappellerez. » « Ah oui, oui, en effet, » dit Lorenza, avec le même accent monotone, « je me souviens. » « Parlez !» Lorsque je me fus évanoui, Au moment même où les ciseaux touchaient mes cheveux, on m'emporta dans ma cellule et l'on me coucha sur mon lit. Jusqu'au soir, ma mère resta près de moi et comme je demeurais toujours sans connaissance, on envoya chercher le chirurgien du village, lequel me tâta le pouls, passa un mouchoir devant mes lèvres et, reconnaissant que mes artères étaient sans battement et ma bouche sans haleine, déclara que j'étais morte. « Mais comment savez-vous tout cela ?» demanda la princesse. « Son Altesse désire savoir comment vous savez tout cela ?» répéta le comte. « Chose étrange, dit Lorenza, je voyais et j'entendais, seulement je ne pouvais ouvrir les yeux, parler ni remuer, j'étais comme en léthargie. « En effet, dit la princesse, Tronchin m'a parlé parfois de personnes tombées en léthargie et qui avaient été enterrées vivantes. » Continuez, Lorenza. Ma mère se désespérait et ne voulait point croire à ma mort. Elle déclara qu'elle passerait encore près de moi la nuit et la journée du lendemain. Elle le fit ainsi qu'elle l'avait dit, mais les 36 heures pendant lesquelles elle me veilla s'écoulèrent sans que je fisse un mouvement, sans que je poussasse un soupir. 3 fois, le prêtre était venu, et chaque fois, il avait dit à ma mère que c'était se révolter contre Dieu que de vouloir retenir mon corps sur la terre quand déjà il avait mon âme, car il ne doutait pas qu'étant morte dans les conditions du salut, au moment où j'allais prononcer les paroles qui scellaient mon éternelle alliance avec le Seigneur, il ne doutait pas, disait-il, que mon âme ne fût montée droit au ciel. Ma mère insista tant qu'elle obtint de me veiller encore pendant toute la nuit du lundi au mardi. Le mardi matin, j'étais toujours dans le même état d'insensibilité. Ma mère se retira, vaincue. Les religieuses criaient au sacrilège. Les cierges étaient allumés dans la chapelle où je devais, selon l'habitude, être exposé un jour et une nuit. Ma mère, une fois sortie, les ensevelisseuses entrèrent dans ma chambre. Comme je n'avais pas prononcé mes vœux, on me mit une robe blanche, on ceignit mon front d'une couronne de roses blanches, on plaça mes bras en croix sur ma poitrine, puis on demanda la bière. La bière fut apportée dans ma chambre. Un profond frissonnement courut par tout mon corps, car, je vous le répète, à travers mes paupières fermées, je voyais tout, comme si mes yeux eussent été tout grands ouverts. On me prit et l'on me déposa dans le cercueil. Puis, le visage découvert, comme c'est l'habitude chez nous autres italiennes, on me descendit dans la chapelle et l'on me plaça au milieu du chœur avec des cierges allumés tout autour de moi et un bénitier à mes pieds. Toute la journée, les paysans de Subiaco entrèrent dans la chapelle, prièrent pour moi et jetèrent de l'eau bénite sur mon corps. Le soir vint, les visites cessèrent. On ferma en dedans les portes de la chapelle, moins la petite porte, et la sœur infirmière resta seule près de moi. Cependant, une pensée terrible m'agitait dans mon sommeil. C'était le lendemain que devait avoir lieu l'enterrement, et je sentais que j'allais être enterrée toute vive si quelque puissance inconnue ne venait à mon secours. J'entendais les unes après les autres les heures. 9 heures sonnèrent, puis 10 heures, puis 11 heures. Chaque coup retentissait dans mon cœur, car j'entendais, chose effrayante, le glas de ma propre mort. Ce que je fis d'effort pour vaincre ce sommeil glacé, pour rompre ces liens de fer qui m'attachaient au fond de mon cercueil, Dieu seul le sait, mais il le vit, puisqu'il eut pitié de moi. Minuit sonna. Au premier coup, il me sembla que tout mon corps était secoué par un mouvement convulsif pareil à celui que j'avais l'habitude d'éprouver quand Akarat s'approchait de moi. Puis j'éprouvais une commotion au cœur, puis je le vis apparaître à la porte de la chapelle. « Est-ce de l'effroi que vous éprouvâtes alors ? » demanda le comte de Phénix. Non, non, ce fut du bonheur, ce fut de la joie, ce fut de l'extase, car je comprenais qu'il venait m'arracher à cette mort désespérée que je redoutais tant. Il marcha lentement vers mon cercueil, me regarda un instant avec un sourire plein de tristesse, puis il me dit « Lève-toi et marche ». Les liens qui retenaient mon corps étendu se rompirent aussitôt, et à cette voix puissante je me levai et je mis un pied hors de mon cercueil. « Es-tu heureuse de vivre ?» me demanda-t-il. « Oui, » répondis-je. Eh bien alors, suis-moi. » L'infirmière, habituée au funèbre office qu'elle remplissait auprès de moi, après l'avoir rempli près de tant d'autres sœurs, dormait sur sa chaise. Je passai près d'elle sans l'éveiller, et je suivis celui qui, pour la seconde fois, m'arrachait à la mort. Nous arrivâmes dans la cour, je revis ce ciel tout parsemé d'étoiles brillantes que je n'espérais plus revoir. Je sentis cet air frais de la nuit que les morts ne sentent plus, mais qui est si doux aux vivants. « Maintenant, me demanda-t-il, avant de quitter ce couvent, choisissez entre Dieu et moi. Voulez-vous être religieuse? Voulez-vous me suivre ?»« Je veux vous suivre, répondis-je. »« Alors venez, dit-il une seconde fois. » Nous arrivâmes à la porte du tour, elle était fermée. « Où sont les clés ?» me demanda-t-il. « Dans les poches de la sœur Tourière. »« Où sont ses poches ?» Sur une chaise, près de son lit. Entrez chez elle sans bruit, prenez les clés, choisissez celle de la porte et apportez-la moi. J'obéis. La porte de la loge n'était point fermée en dedans. J'entrai, j'allai droit à la chaise, je fouillai dans les poches, je trouvai les clés. Parmi le trousseau, je trouvai celle du tour et je la portai. 5 minutes après, le tour s'ouvrait et nous étions dans la rue. Alors je pris son bras et nous courûmes vers l'extrémité du village de Subiaco. À 100 pas de la dernière maison, une chaise de poste attendait, tout attelée, nous montâmes dedans et elle partit au galop. « Et aucune violence ne vous fut faite, aucune menace ne fut proférée, vous suivîtes cet homme volontairement ?» Lorenza resta muette. « Son Altesse Royale vous demande, Lorenza, si par quelque menace ou quelque violence, je vous forçais à me suivre. »« Non. »« Et pourquoi le suivîtes-vous ? » ?»« Dites, pourquoi m'avez-vous suivi ?»« Parce que je vous aimais, » dit Lorenza. Le comte de Phénix se retourna vers la princesse avec un sourire triomphant. Ce qui se passait sous les yeux de la princesse était tellement extraordinaire qu'elle se demandait, elle, l'esprit fort et tendre à la fois, si l'homme qu'elle avait devant les yeux n'était pas véritablement un magicien disposant des cœurs et des esprits à sa volonté. Mais le comte de Phénix ne voulut point s'en tenir là. « Ce n'est pas tout, madame, dit-il, et votre Altesse n'a entendu de la bouche même de Lorenza qu'une partie de notre histoire. » Elle pourrait donc conserver des doutes si, de sa bouche close, elle n'entendait le reste. Alors, se retournant vers la jeune femme, « Vous souvient-il, chère Lorenza, dit-il, de la suite de notre voyage que nous avons visité ensemble Milan, le lac Majeur, l'Oberland, le Rigi et le Rhin magnifique qui est le Tibre du Nord ?»« Oui, dit la jeune femme avec son même accent monotone, oui, Lorenza a vu tout cela. » « Entraîné par cet homme, n'est-ce pas, mon enfant, en cédant à une force irrésistible dont vous ne vous rendiez pas compte vous-même ?» demanda la princesse. « Pourquoi croire cela, madame, quand, loin de là, tout ce que votre Altesse vient d'entendre lui prouve le contraire ? Et d'ailleurs, tenez, s'il vous faut une preuve plus palpable encore, un témoin matériel, voici une lettre de Lorenza elle-même. » J'avais été obligé de la laisser, malgré moi, seule à Mayence. Eh bien, elle me regrettait, elle me désirait, car en mon absence, elle m'écrivait ce billet que votre Altesse peut lire. Le comte tira une lettre de son portefeuille et la remit à la princesse. La princesse lut. « Reviens à Carat, tout me manque quand tu me quittes. Mon Dieu, quand serai-je donc à toi pour l'éternité ?» Signé Lorenza. La princesse se leva, la flamme de la colère au front, et s'approcha de Lorenza, le billet à la main. Celle-ci la laissa s'approcher, sans la voir, sans l'entendre, elle semblait ne voir ni n'entendre que le comte. « Je comprends, dit vivement celui-ci, qui paraissait décidé à se faire jusqu'au bout l'interprète de la jeune femme. Votre Altesse doute et veut savoir si le billet est bien d'elle. Soit, votre Altesse sera éclaircie par elle-même. Lorenza répondait, « Qui a écrit ce billet ?» Il prit le billet, le mit dans la main de sa femme, qui appliqua aussitôt cette main sur son cœur. « C'est Lorenza, dit-elle. » « Et Lorenza sait-elle ce qu'il y a dans cette lettre ?»« Sans doute. »« Eh bien, dites à la princesse ce qu'il y a dans cette lettre, afin qu'elle ne croie pas que je la trompe quand je lui dis que vous m'aimez. Dites-le lui, je le veux. » Lorenza parut faire un effort, mais sans déplier le billet, sans le porter à ses yeux, elle lut. « Reviens, Acarat, tout me manque quand tu me quittes, mon Dieu, quand donc serai-je à toi pour l'éternité, signé Lorenza. » « C'est à ne pas croire, dit la princesse, et je ne vous crois pas, car il y a dans tout ceci quelque chose d'inexplicable, de surnaturel. » Ce fut cette lettre, continua le comte de Phénix, comme s'il n'eût point entendu Madame Louise, ce fut cette lettre qui me détermina à presser notre union. J'aimais Lorenza autant qu'elle m'aimait, notre position était fausse. D'ailleurs, dans cette vie aventureuse que je mène, un malheur pouvait arriver. Je pouvais mourir, et si je mourais, je voulais que tous mes biens appartinssent à Lorenza. Aussi, en arrivant à Strasbourg, nous nous mariâmes. Vous mariâtes ? Oui, impossible. Et pourquoi cela, madame ? Dit en souriant le comte. Et qu'y avait-il d'impossible ? Je vous le demande. Est-ce que le comte de Phénix épousa Lorenza Feliciani ? Mais elle m'a dit elle-même qu'elle n'était point votre femme. Le comte, sans répondre à la princesse, se retourna vers Lorenza. Vous rappelez-vous quel jour nous nous mariâmes ? Lui demanda-t-il. Oui, répondit-elle. Ce fut le 3 de mai. Où cela ? À Strasbourg. Dans quelle église ? Dans la cathédrale même, à la chapelle Saint-Jean. Opposâtes-vous quelque résistance à cette union ? Non, j'étais trop heureuse. C'est que, vois-tu, Lorenza, continua le comte, la princesse croit qu'on t'a fait violence. On lui a dit que tu me haïssais. Et en disant ces paroles, le comte prit la main de Lorenza. Le corps de la jeune femme frissonna tout entier de bonheur. « Moi, dit-elle, te haïr, oh non, je t'aime, tu es bon, tu es généreux, tu es puissant. »« Et depuis que tu es ma femme, dit Lorenza, ai-je jamais abusé de mes droits d'époux ?»« Non, tu m'as respecté comme ta fille, et je suis ton ami pur et sans tache. » Le comte se retourna vers la princesse comme pour lui dire « Vous entendez ?» Saisie d'épouvante, Madame Louise avait reculé jusqu'au pied du Christ d'ivoire appliqué sur un fond de velours noir au mur du cabinet. « Est-ce là tout ce que votre Altesse désire savoir ?» dit le comte en laissant retomber la main de Lorenza. « Monsieur, monsieur !» s'écria la princesse, « ne m'approchez pas, ni elle non plus !» En ce moment, on entendit le bruit d'un carrosse qui s'arrêtait à la porte de l'abbaye. « Ah ! » s'écria la princesse, « voilà le cardinal, nous allons savoir enfin à quoi nous en tenir. » Le comte de Phénix s'inclina, dit quelques mots à Lorenza et attendit avec le calme d'un homme qui aurait le don de diriger les événements. Un instant après, la porte s'ouvrit et l'on annonça son éminence, monsieur le cardinal de Rohan. La princesse, rassurée par la présence d'un tiers, vint reprendre sa place sur son fauteuil en disant « Faites entrer ». Le cardinal entra, mais il n'eut pas plutôt salué la princesse qu'en apercevant Balsamo. « Ah, c'est vous, monsieur » dit-il avec surprise. « Vous connaissez monsieur ?» demanda la princesse, de plus en plus étonnée. « Oui, » dit le cardinal. « Alors, » s'écria Madame Louise, « vous allez nous dire qui il est ?»« Rien de plus facile, » dit le cardinal, « monsieur est sorcier. »« Sorcier ?» murmura la princesse. Pardon, madame, dit le comte, son éminence s'expliquera tout à l'heure et à la satisfaction de tout le monde, j'espère. Est-ce que monsieur aurait fait aussi quelques prédictions à son Altesse royale, que je la vois bouleversée à ce point ? Demanda monsieur de Rohan. L'acte de mariage, l'acte, sur le champ, s'écria la princesse. Le cardinal regardait étonné, car il ignorait ce que pouvait signifier cette exclamation. Le voici, dit le comte en le présentant au cardinal. Qu'est-ce cela ? Demanda celui-ci. Monsieur, dit la princesse, il s'agit de savoir si cette signature est bonne et si cet acte est valide. Le cardinal lut le papier que lui présentait la princesse. Cet acte est un acte de mariage, parfaitement en forme, et cette signature est celle de monsieur Remy, curé de la chapelle Saint-Jean, mais qu'importe à votre Altesse ? Oh, il m'importe beaucoup, monsieur. Ainsi, la signature « Eh bonne, mais rien ne me dit qu'elle n'ait pas été extorquée. »« Extorquée, n'est-ce pas ? C'est possible !» s'écria la princesse. « Et le consentement de Lorenza aussi, n'est-ce pas ?» dit le comte avec une ironie qui s'adressait directement à la princesse. « Mais par quel moyen, voyons, monsieur le cardinal, par quel moyen aurait-on pu extorquer cette signature ? Dites, le savez-vous ? Ah, par ceux qui sont au pouvoir de monsieur, par des moyens magiques. » magique, cardinal, est-ce bien vous ? Monsieur est sorcier, je l'ai dit, et je ne m'en dédie pas. Votre éminence veut plaisanter. Non pas, et la preuve, c'est que devant vous, je veux avoir avec monsieur une sérieuse explication. J'allais la demander à votre éminence, dit le comte. À merveille, mais n'oubliez pas que c'est moi qui interroge, dit le cardinal avec hauteur. Et moi, dit le comte, n'oubliez pas qu'à toutes vos interrogations, je répondrai, même devant son Altesse, si vous y tenez. Mais vous n'y tiendrez pas, j'en suis certain. Le cardinal sourit. Monsieur, dit-il, c'est un rôle difficile à jouer de notre temps que celui de sorcier. Je vous ai vu à l'œuvre, vous y avez eu un grand succès, mais tout le monde, je vous en préviens, n'aura pas la patience et surtout la générosité de Madame la Dauphine. « De Madame la Dauphine ?» s'écria la princesse. « Oui, madame, dit le comte, j'ai eu l'honneur d'être présenté à son Altesse royale. »« Et comment avez-vous reconnu cet honneur, monsieur ? Dites, dites !»« Hélas, reprit le comte, plus mal que je n'eusse voulu, car je n'ai point de haine personnelle contre les hommes, et surtout contre les femmes. »« Mais qu'a donc fait monsieur à mon auguste nièce ?» dit Madame Louise. « Madame, dit le comte, j'ai eu le malheur de lui dire la vérité qu'elle me demandait. »« Oui, la vérité, une vérité qui l'a fait évanouir. »« Est-ce ma faute ?» reprit le comte de cette voix puissante qui devait si bien tonner en certains moments. « Est-ce ma faute si cette vérité était si terrible qu'elle devait produire de semblables effets ? Est-ce moi qui ai cherché la princesse ? Est-ce moi qui ai demandé à lui être présentée ? Non, je l'évitais au contraire. On m'a amené près d'elle presque de force. Elle m'a interrogé en ordonnant. Mais quelle était donc cette vérité si terrible que vous lui avez dite, monsieur ? Demanda la princesse. Cette vérité, madame, répondit le comte, c'est le voile de l'avenir que j'ai déchiré. De l'avenir ? « Oui, madame, de cet avenir qui a paru si menaçant à votre Altesse royale qu'elle a essayé de le fuir dans un cloître, de le combattre au pied des autels par ses prières et par ses larmes. »« Monsieur, est-ce ma faute, madame, si cet avenir que vous avez pressenti comme sainte m'a été révélé à moi comme prophète, et si madame la Dauphine, épouvantée de cet avenir qui la menace personnellement, s'est évanouie lorsqu'il lui a été révélé ?»« Vous l'entendez ?» dit le cardinal. « Hélas !» dit la princesse. « Car son règne était condamné !» s'écria le comte, « comme le règne le plus fatal et le plus malheureux de toute la monarchie !»« Monsieur !» s'écria la princesse. « Quant à vous, madame, continua le comte, peut-être votre prière a-t-elle obtenu grâce, mais vous ne verrez rien de tout cela, car vous serez dans les bras du Seigneur quand ces choses arriveront. Priez, madame, priez !» La princesse, dominée par cette voix prophétique qui répondait si bien aux terreurs de son âme, tomba à genoux au pied du crucifix et se mit effectivement à prier avec ferveur. Alors le comte, se tournant vers le cardinal et le précédant dans l'embrasure de la fenêtre, « À nous deux, monsieur le cardinal, que me vouliez-vous ? » Le cardinal alla rejoindre le comte. Les personnages étaient disposés ainsi. La princesse, au pied du crucifix, priait avec ferveur. Lorenza, immobile, muette, les yeux ouverts et fixes comme s'il ne voyait pas, était debout au milieu de l'appartement. Les deux hommes se tenaient dans l'embrasure de la fenêtre, le comte appuyé sur l'espagnolette, le cardinal à moitié caché par le rideau. « Que me voulez-vous ? » répéta le comte. « Parlez. Je veux savoir qui vous êtes. Mais vous le savez. Moi ? Mais sans doute, n'avez-vous pas dit que j'étais sorcier ? « Très bien, mais là-bas, on vous nommait Joseph Balsamo, ici, l'on vous nomme le comte de Phénix. »« Eh bien, que prouve cela ? Que j'ai changé de nom, voilà tout. »« Oui, mais savez-vous que de pareils changements, de la part d'un homme comme vous, donneraient fort à penser à monsieur de Sartine ?» Le comte sourit. « Oh, monsieur, que voilà une petite guerre pour un Rohan. Comment votre majesté argumente sur des mots ?»« Verba et voces, dit le latin. N'a-t-on rien de plus à me reprocher ?»« Vous devenez railleur, je crois, dit le cardinal. »« Je ne le deviens pas, c'est mon caractère. »« Alors je vais vous donner une satisfaction. »« Laquelle ?»« Celle de vous faire baisser de ton. »« Faites, monsieur. »« Ce sera, j'en suis certain, faire ma cour à madame la dauphine. » « Ce qui ne sera pas du tout inutile dans les termes où vous êtes avec elle, » dit flegmatiquement Balsamo. « Et si je vous faisais arrêter, monsieur l'horoscope, que diriez-vous »« Je dirais que vous avez grand tort, monsieur le cardinal. En vérité, dit l'éminence avec un mépris cassant, et qui donc trouverait cela? Vous-même, monsieur le cardinal. Je vais donc donner l'ordre de ce pas, alors on verra au juste qui est ce baron Joseph Balsamo, comte de Phénix, rejeton illustre d'un arbre généalogique dont je n'ai vu la graine en aucun champ héraldique de l'Europe. Monsieur, dit Balsamo, que ne vous êtes-vous informé de moi, à votre ami monsieur de Breteuil? Monsieur de Breteuil n'est pas mon ami. C'est-à-dire qu'il ne l'est plus, mais il l'a été, de vos meilleurs même, car vous lui avez écrit certaines lettres.
Quelles lettres ? Demanda le cardinal, se rapprochant.
Plus près, monsieur le cardinal, plus près. Je ne voudrais point parler haut, de peur de vous compromettre. Le cardinal se rapprocha encore. De quelles lettres voulez-vous parler ? Dit-il.
Oh, vous le savez bien. Dites toujours.
Eh bien, d'une lettre que vous écrivîtes de Vienne à Paris, à l'effet de faire manquer le mariage du dauphin.
Le prélat laissa échapper un mouvement d'effroi.
Cette lettre, balbutia-t-il,
je la sais par cœur.
C'est une trahison de monsieur de Breteuil, alors.
Pourquoi cela?
Parce que lorsque le mariage fut décidé, je la lui redemandai.
Et il vous a dit
qu'elle était brûlée.
C'est qu'il n'osa vous dire qu'elle était perdue.
Perdu?
Oui, or une lettre perdue, vous comprenez, il se peut qu'on la retrouve.
Si bien que cette lettre que j'ai écrite à monsieur de Breteuil,
oui,
qu'il me dit avoir brûlé,
oui,
et qu'il avait perdu,
je l'ai retrouvée.
Oh mon Dieu, par hasard, en passant par la cour de marbre de Versailles.
Et vous ne l'avez pas fait remettre à monsieur de Breteuil?
Je m'en serais bien gardé. Et pourquoi cela?
Parce que, en ma qualité de sorcier, je savais que votre éminence, à qui je veux tant de bien, moi, me voulait mal de mort.
Alors, vous comprenez, un homme désarmé qui sait qu'en traversant un bois, il va être attaqué, et qui trouve un pistolet tout chargé sur la lisière de ce bois,
eh bien, cet homme est un sot s'il se dessaisit de ce pistolet.
Le cardinal eut un éblouissement et s'appuya sur le rebord de la fenêtre. Mais après un instant d'hésitation, dont le comte dévorait les variations sur son visage, « Soit, dit-il, mais il ne sera pas dit qu'un prince de ma maison aura plié devant la menace d'un charlatan.
Cette lettre eût-elle été perdue, l'eussiez-vous trouvée, dût-elle être montrée à madame la dauphine elle-même,
cette lettre dût-elle me perdre comme homme politique, je soutiendrais mon rôle de sujet loyal, de fidèle ambassadeur. Je dirais ce qui est vrai, c'est-à-dire que je trouvais cette alliance nuisible aux intérêts de mon pays, et mon pays me défendra ou me plaindra.
Et si quelqu'un, dit le comte, se trouve là, qui dise que l'ambassadeur, jeune, beau, galant, ne doutant de rien, vu son nom de Rohan et son titre de prince, ne disait point cela parce qu'il croyait l'alliance autrichienne nuisible aux intérêts de la France, mais parce que, gracieusement reçu d'abord par l'archiduchesse Marie-Antoinette, cet orgueilleux ambassadeur avait eu la vanité de voir dans cette affabilité quelque chose de plus que de l'affabilité.
Que répondra le fidèle sujet, le loyal ambassadeur?
Il niera, monsieur, car de ce sentiment que vous prétendez avoir existé, il ne reste aucune preuve.
Ainsi fait, monsieur, vous vous trompez. Il reste la froideur de madame la dauphine pour vous.
Le cardinal hésita.
Tenez, mon prince, dit le comte, croyez-moi, au lieu de nous brouiller, comme ce serait déjà fait, si je n'avais plus de prudence que vous, restons bons amis.
Bons amis?
Et pourquoi pas, les bons amis sont ceux qui nous rendent des services.
En ai-je jamais réclamé de vous?
Oh, c'est le tort que vous avez eu, car depuis 2 jours que vous êtes à Paris.
Moi?
Oui, vous.
Eh, mon Dieu, pourquoi vouloir me cacher cela, moi qui suis sorcier?
Vous avez quitté la princesse à Soissons, vous êtes venu en poste à Paris par Villers-Cotterêts et dans Martin, c'est-à-dire par la route la plus courte, et vous êtes venu demander à vos bons amis de Paris des services qu'ils vous ont refusés. Après lesquels refus, vous êtes reparti en poste pour Compiègne, et cela désespéré.
Le cardinal semblait anéanti.
Et quel genre de service pouvais-je donc attendre de vous, demanda-t-il, si je m'étais adressé à vous?
Le service que l'on demande à un homme qui fait de l'or.
Que m'importe que vous fassiez de l'or. Peste, quand on a 500 000 francs à payer dans les 48 heures, est-ce bien 500 000 francs, dites?
Oui, c'est bien cela.
Vous demandez à quoi importe d'avoir un ami qui fait de l'or. Cela importe que les 500 000 francs qu'on a pu trouver chez personne, on les trouvera chez lui.
Et où cela? Demanda le cardinal.
Le rue Saint-Claude, au Marais.
À quoi reconnaîtrais-je la maison?
À une tête de griffon en bronze qui sert de marteau à la porte.
Quand pourrais-je m'y présenter?
Après-demain, monseigneur, vers 6 heures du soir, s'il vous plaît.
Et ensuite?
Ensuite?
Toutes et quantes fois, il vous fera plaisir d'y venir, mais
tenez, notre conversation finit à temps, voilà la princesse qui a terminé sa prière.
Le cardinal était vaincu. Il n'essaya point de résister plus longtemps, et s'approchant de la princesse,
« Madame, dit-il, je suis forcé d'avouer que monsieur le comte de Phénix a parfaitement raison, que l'acte dont il est porteur est, on ne peut plus, valable, et qu'enfin, les explications qu'il m'a données m'ont complètement satisfait. »
Le comte s'inclina.
« Qu'ordonne votre Altesse royale ? » demanda-t-il.
« Un dernier mot à cette jeune femme. »
Le comte s'inclina une seconde fois en signe d'assentiment.
« C'est de votre propre volonté que vous voulez quitter le couvent de Saint-Denis où vous étiez venu demander un refuge ?»«
Son Altesse, reprit vivement Balsamo, demande si c'est de votre propre et entière volonté que vous voulez quitter le couvent de Saint-Denis où vous étiez venu demander un asile.
Répondez, Lorenza. »«
Oui, dit la jeune femme, c'est de ma propre volonté. »
Et poursuivre votre mari, le comte de Phénix.
Et cela pour me suivre, répéta le comte.
Oh oui, dit la jeune femme.
En ce cas, dit la princesse, je ne vous retiens ni l'un ni l'autre, ce serait faire violence aux sentiments, mais il y a quelque chose dans tout ceci qui sorte de l'ordre naturel des choses, que la punition du Seigneur retombe sur celui qui, à son profit ou dans ses intérêts, aura troublé l'harmonie de la nature.
« Allez, monsieur le comte de Phénix, allez, Lorenza Feliciani, je ne vous retiens plus, seulement reprenez vos bijoux. »«
Ils sont aux pauvres, madame, dit le comte de Phénix, et distribué par vos mains, l'aumône sera deux fois agréable à Dieu. Je ne redemande que mon cheval, Djerid. »«
Vous pouvez le réclamer en passant, monsieur, allez. »
Le comte s'inclina devant la princesse et présenta son bras à Lorenza, qui vint s'y appuyer et qui sortit avec lui sans prononcer une parole.
« Ah, monsieur le cardinal, dit la princesse en secouant tristement la tête, il y a des choses incompréhensibles et fatales dans l'air que nous respirons. »